Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Quand elle est devenue maman, Céline s'est aperçue de toute la complexité de ce nouveau statut et a choisi d'en parler avec humour à travers ses dessins. Beaucoup de femmes se sont alors senties touchées par ce regard décomplexé sur la maternité, et cela a donné naissance à deux livres. Dans cet épisode, Céline nous raconte son propre parcours de maman, à travers deux fausses couches et un troisième bébé surprise, et elle nous parle aussi de sa carrière d'illustratrice et comment son succès s'est mis en place en même temps que sa maternité. Bonne écoute!
Bonjour Céline, merci beaucoup de m'accueillir dans ton joli restaurant lyonnais pour enregistrer cet épisode.
Merci à toi d'être venue me voir.
Alors tu es la maman de trois enfants, un garçon et deux filles.
C'est ça.
Quel âge ils ont ?
Alors, mon grand a 6 ans et demi. Alors, ils aiment bien qu'on précise le « et demi », donc voilà.
Évidemment.
La cadette a 3 ans et demi, va avoir 4 ans, et la petite dernière vient d'avoir 2 ans.
Des enfants rapprochés, du coup.
Oui, surtout les deux filles.
Alors, comment s'est passée ta première grossesse ?
Super bien. Elle est arrivée un petit peu par surprise parce qu'en fait, avant, j'avais fait une fausse couche. Donc, on était quand même dans une dynamique de bébé. Mais je venais de commencer un nouveau travail. Donc, on avait mis le projet un petit peu entre parenthèses. Et voilà, c'est arrivé plutôt que prévu. Et c'est une super nouvelle. On était vraiment contents. Je stressais un peu de l'annoncer à mon travail. Mais voilà, une fois que ça a été fait, après, j'avais plus aucun problème. Et c'est une grossesse qui s'est bien passée. J'ai pas eu de problème physique. J'étais en forme, après fatiguée comme une femme enceinte normale, mais c'est une super expérience.
Et pourquoi tu avais peur de l'annoncer à ton travail ?
Bah parce que je venais de commencer et qu'en gros, j'ai découvert que j'étais enceinte 2 mois après avoir commencé mon job, que j'avais été prise pour une mission bien particulière et cette mission, elle avait lieu, je crois, 8-9 mois après. Donc voilà, ça voulait dire que j'irais pas jusqu'au bout de ma mission. Et bêtement, dans une société où voilà, d'être enceinte au travail, c'est pas forcément très bien vu, j'avais peur de l'annoncer. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dans mon service, on s'est retrouvés 8 femmes enceintes en même temps. Donc je l'ai annoncé et on l'a tout annoncé à quelques jours d'intervalle. Et on est devenu le gang des femmes enceintes. Donc ça s'est super bien passé, même de ce côté-là, parce que voilà, on était en force du coup. Donc voilà, j'en garde un très bon souvenir.
Et alors, tu parlais justement de ta fausse couche. Ça, c'est quelque chose à laquelle tu t'attendais pas du tout quand ça t'est arrivé ?
Non, pas du tout, parce qu'en plus, moi, je me vois toujours comme quelqu'un de jeune, entre guillemets, en tout cas à l'époque, en bonne santé. Je suis pas du tout du genre à m'inquiéter, je suis pas du tout hypochondriaque. Pour moi, tout roule tout le temps, quoi. Donc, j'étais enceinte, et à aucun moment, je me suis dit « ça risque de mal se passer ». Je sais que les gens ne l'annoncent pas tout de suite, quand ils attendent un enfant, justement pour passer un peu la phase critique. Moi, je l'ai annoncé tout de suite à ma famille, tellement j'étais contente. Et je ne pensais pas du tout que ça m'arriverait. Non, à aucun moment. Pour moi, c'était rare, c'était pour d'autres personnes. Je ne l'ai pas envisagé. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir les symptômes, j'ai fait tout ce que tout le monde fait. Je suis allée sur Internet voir. Et forcément, ça m'a alarmée. Et j'espérais tant que ce soit pas ça, et quand ça s'est confirmé, j'étais hyper triste parce que j'étais enceinte de 6 semaines Et bah, on a le temps de se projeter. Alors, je n'avais pas encore eu le premier rendez-vous. Comment dire ? En fait, j'ai fait ma fausse couche un jour avant le rendez-vous chez la gynécologue, qui m'a confirmé, du coup, que j'allais perdre le bébé. Et ouais, il m'a fallu 2-3 jours pour m'en remettre, déjà physiquement, parce que c'est hyper violent et ça, on n'en parle pas, mais ça fait super mal. Et puis, j'étais triste. J'avoue avoir ressenti un peu de jalousie pour les personnes qui avaient eu leur bébé tout de suite. Et je me dis, mais pourquoi moi ça marche pas? Pourquoi je fais une fausse couche? Après, j'y connaissais rien. Et depuis, je me suis documentée, j'ai échangé avec des amis. Et finalement, c'est tellement courant que voilà, c'était presque normal d'en faire une à un moment donné dans sa vie. Mais voilà, sur le moment, je trouvais ça hyper injuste. Et voilà, il m'a fallu un petit peu de temps pour m'en remettre.
Et tu disais du coup que tant mieux en fait que tu l'aies annoncé à tes proches, ta grossesse en fait à ce moment-là.
Oui, parce qu'au final, je l'avais annoncé à ma famille très proche, c'est-à-dire ma mère, mon frère, mes beaux-parents et mon beau-frère. Et comme bah, quand arrive quelque chose de pas drôle, bah, la famille était présente, ils m'appelaient tous les jours pour savoir comment ça allait, ils nous ont beaucoup entourés, donc de toute façon on leur aurait dit dans tous les cas. Et puis j'ai décidé aussi de le dire à des amis. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y en a plein qu'on avait fait aussi. Et après du coup comme j'étais celle qui avait fait une fausse couche, bah, d'autres personnes m'en parlaient et voilà les langues se déliaient. Je dis pas que ça enlève la peine de savoir que c'est arrivé à d'autres personnes, mais en fait, ça rend la chose beaucoup plus normale. En fait, voilà, ça fait partie de la vie. Ça veut pas dire que ça va pas marcher. Donc j'ai trouvé ça bien, oui, d'en parler. Et je continue toujours à en parler de manière très libre. Je sais pas pourquoi on fait tout un tabou, en fait, de ça. Ouais, ce truc de « faut pas le dire, elle a fait une fausse couche ». Genre, c'est un truc un peu honteux. Il y a rien de honteux. On y est pour rien, en fait. Je veux dire, ça arrive... Souvent, on ne sait pas pourquoi. Et je trouve... Enfin, moi, à l'époque, j'aurais aimé voilà, savoir que c'était courant, que ce n'était pas grave. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut... comment dire... diminuer la peine que ça peut causer aux parents. Parce que dans tous les cas, ça fait de la peine. Et puis, moi, j'en ai refait une autre ensuite entre mon fils et ma fille. Et cette fois, j'étais enceinte de 2 mois et j'allais faire l'échographie. Et là, je me suis dit, non, mais encore... Enfin... Ouais, j'ai du mal parce que je m'étais bien, bien projetée pour le coup. Donc voilà, à chaque fois, ça m'a fait beaucoup de peine, mais on avance. Et puis surtout, moi, j'ai la chance voilà, d'avoir 3 enfants, donc on relativise aussi beaucoup. Mais du coup, c'est vrai que quand j'entends des personnes qui me confient avoir eu des problèmes pour avoir des enfants, tout ça, j'essaie d'avoir beaucoup d'empathie. Une dernière chose... Il y a juste un truc qui m'énerve, c'est quand il y a un jeune couple qui est en âge de procréer, potentiellement qui vient de se marier, les remarques que fait l'entourage, proche ou pas trop proche, de « alors, quand est-ce que vous faites un enfant ?» Ça, j'ai vraiment appris que ça pouvait être hyper blessant parce qu'on ne sait pas quelle est l'histoire du couple, on ne sait pas s'ils ont pas... Ça fait peut-être 5 ans qu'ils essayent et que ça ne marche pas. Et du coup, je fais toujours très attention, moi, justement, dans mes propos avec des personnes. Je ne fais jamais de blagues là-dessus. Quand je vois voilà, que peut-être la fille ne prend pas d'alcool, tout ça, que bon, je soupçonne, je ne fais pas la grosse gaffe de « ah, bah, t'es enceinte », chose qu'on m'a faite, moi, des tonnes de fois et qui m'énerve parce que je me dis bah, « si je ne l'annonce pas là, c'est peut-être qu'il y a une raison que je n'ai pas envie maintenant tout de suite ». Et voilà, du coup, ma propre expérience m'amène à être un peu plus... Voilà, de l'empathie pour les autres couples. C'est quelque chose de très personnel. Et j'essaye d'accompagner ça du mieux que je peux quand je suis confrontée.
Et à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça ne soit plus tabou? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place?
Alors, c'est vrai que ça change un petit peu parce qu'on en parle de plus en plus. Sincèrement, je ne sais pas trop. En plus, moi, j'ai vraiment 2 expériences différentes. Donc, la première, ma fausse couche s'est faite naturellement, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai juste allé voir la gynécologue qui, pour le coup, a eu des mots, j'ai trouvé très durs parce qu'en fait, elle m'a annoncé, elle m'a dit, je pense que vous allez faire une fausse couche parce qu'il y a beaucoup de sang et... pense pas que ça va tenir. Elle m'a prescrit une échographie. C'était hyper mécanique, médical, sans aucune empathie. Je suis arrivée, on m'a fait l'échographie. Je connaissais pas ces échographies, je crois que c'est pelvienne, comme on dit, je sais plus exactement quel est le mot. Enfin bref, c'est pas hyper agréable. Voilà, le médecin arrive, dit que bah effectivement, en fait, il y a plus rien. Je rappelle cette gynéco qui me dit bon bah écoutez, c'est pas grave, il y a plus qu'à recommencer. Et puis c'est tout quoi. Et je me suis retrouvée avec ma peine, avec toutes mes questions de ouais recommencer, mais on entend un peu tout en plus parce que on nous dit qu'il faut attendre, on nous dit certains disent qu'au contraire ça sert à rien d'attendre et que voilà le corps se remet très vite. Et donc un manque total d'information et un manque mais d'empathie incroyable de la part du corps médical. En revanche, quand ça m'est arrivé la deuxième fois, donc cette fois j'étais à Lyon, la première fois c'était à Paris, et là du coup on a dû me faire un curetage. Et au contraire, là, j'ai vraiment trouvé l'équipe médicale super à l'écoute, très douce, beaucoup dans l'accompagnement. Et ça s'est beaucoup mieux passé, en fait. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait effectivement peut-être que les équipes médicales en parlent plus, qu'on accompagne peut-être aussi plus les mamans, parce que ça reste un traumatisme, on est toutes différentes, peut-être que pour certaines, c'est pas grave, entre guillemets, elles vont vite rebondir, quand pour d'autres, ça va être voilà, beaucoup plus traumatisant. Et puis surtout, qu'on puisse en parler tous les uns avec les autres, en fait. Il y a des sujets comme ça, entre femmes, qu'on n'aborde pas. Et je pense que la fausse couche, oui, bah, quand... oui, je sais pas comment... Faudrait que ça vienne plus dans les conversations, mais après voilà, c'est à chacune aussi d'y participer. J'ai pas la solution miracle.
Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ?
Je me rappelle de beaucoup de sentiments ambigus en fait. On va dire que pour tout ce qui était soins médicaux, pas médicaux, mais soins de l'enfant, c'est-à-dire lui donner le bain, le porter, l'allaiter, j'étais assez à l'aise. Ce qui est très rigolo parce que avant d'avoir un enfant, le fait de tenir un nouveau-né qui ne tenait pas sa tête m'angoissait totalement. Et dès que quelqu'un avait un bébé et voulait me le donner, je faisais toujours une pirouette pour ne pas le prendre. Mais voilà, quand j'ai eu mon fils, c'était très naturel et je ne me suis pas sentie démunie, comme si je n'allais pas pouvoir m'en occuper. En revanche, de découvrir, de me rendre compte que d'un seul coup, voilà, j'étais maman, ça voulait dire que j'étais responsable d'un petit être 24 heures sur 24, que je ne pouvais pas faire de pause, me dire voilà, j'ai envie de dormir ou là j'ai envie de prendre du temps pour moi, c'était pas possible. Ça m'angoissait énormément. En plus, je suis quelqu'un d'assez indépendant, donc oui, je crois que parfois ça m'étouffait un petit peu. Donc voilà, il y avait ces deux sentiments, mais je parle vraiment des premières semaines parce qu'après, au fur et à mesure, c'est devenu vraiment une évidence. Et aujourd'hui, quand je me vois avec mes trois enfants, et comme c'est ma vie, et comme c'est mon identité, ça me fait rire quand je repense à la Céline d'avant, qui avait peur de tenir un nouveau-né. Quoi. Maintenant, je peux en avoir 4-5 dans les bras et jongler avec.
Et alors, donc, tu travaillais dans l'événementiel. Est-ce que tu as réussi à conjuguer vie pro et vie perso à ton retour de congé maternité ?
Oui, parce que déjà dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, on était beaucoup de femmes. Donc c'était quelque chose d'assez commun, voilà, que les femmes, c'est très sexiste, hein, mais doivent partir un peu plus tôt parce qu'elles vont récupérer les enfants à l'école. Donc je l'ai fait pendant un an et demi, avoir à la fois ma carrière et mon fils. En revanche, je sentais aussi que ça pouvait être un travail un peu, planque, dans le sens, c'est bien parce que ça me permet d'être maman aussi, d'avoir du temps pour aller m'occuper de mon fils. Mais en termes de stimulation et en termes de carrière professionnelle, je pense que j'aurais pas beaucoup bougé. Et c'est pour ça qu'au bout d'un an et demi, on a pris la décision avec mon conjoint de complètement changer de vie parce qu'on avait d'autres projets et aussi bien l'envie de se développer professionnellement que d'avoir du temps en famille.
Avant de parler de ces nouveaux projets, c'est avec tes collègues qui étaient devenues tes copines que tu as commencé ton blog.
Oui.
Qu'est-ce que tu dessinais à cette époque ?
Alors, ça s'est vraiment fait en plusieurs étapes. Hein. Et je suis partie de très loin. En fait, ça a commencé d'abord parce que mon conjoint travaillait dans le monde du web. C'était l'époque des blogs. Et c'est lui qui, un jour, m'a dit... il m'a offert une tablette graphique. Parce que j'aimais bien peindre, dessiner. Enfin, voilà, j'étais très manuelle. J'avais fait un bac art plastique, donc c'était un truc que j'aimais bien faire. Mais j'avais jamais dessiné de BD. Et encore moins de manière numérique. Donc, il m'a offert une tablette graphique. Je lui ai dit, OK, c'est cool, j'en fais quoi? Je n'étais pas hyper douée avec l'informatique. Bref, et puis finalement, j'ai commencé un petit peu à gribouiller, à faire des tests et tout. Et c'était l'époque des avatars avec la Wii. Et il m'a dit, tu devrais essayer de créer des petits personnages. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, en fait, de créer, de dessiner mes copines, collègues, parce qu'on était un petit groupe de quatre. On s'entendait hyper bien, on sortait pas mal. On n'avait pas d'enfants. Il y en avait une qui avait des enfants, mais elle arrivait à sortir quand même. Et j'ai commencé à raconter des petites anecdotes comme ça, de filles, en fait, en dessin. Sincèrement, c'était hyper mal dessiné. C'était pas très drôle. C'était juste pour m'entraîner. Il fallait bien commencer quelque part. Du coup, j'ai commencé à les publier sur le blog. Donc, c'est pour ça que le blog s'appelle Copine. Mmh. C'est vraiment en référence à mes amis. Vraiment pas grand monde les voyait. Sur mon compte Facebook, je pense que j'avais 40 ou 50 abonnés. Mmh. Et c'était essentiellement des copains et la famille. Et voilà.
Et ensuite, donc, quand tu es devenue maman, tes dessins ont pris un autre tournant puisque tu as commencé à parler de la maternité à travers tes personnages.
Oui, alors déjà, je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 années qui se sont écoulées, donc j'ai progressé, hein, forcément. Ah ouais. Au début, j'étais très très nulle, après un petit peu moins, mais mes dessins commençaient à avoir un peu plus de vie, et voilà. Et effectivement, c'est quand j'ai commencé... En fait, il y a plusieurs choses. C'est qu'au départ, quand je dessinais pour copines, je mettais en scène mes copines, mais pas moi. Et personne ne savait qu'il y avait Céline derrière les copines, en fait. Tout le monde croyait que c'était 4 nanas, en fait, qui tenaient un blog. Et j'ai des copains qui m'ont dit « Mais t'as fait ton coming out ?» C'est qu'un jour, je me suis dit « Bon, je vais dire que c'est moi, que je suis toute seule et je vais me présenter, en fait. » J'avais peur de le faire parce que sur les réseaux sociaux, on a de tout. On a des gens très bienveillants, mais aussi ce qu'on appelle les haters. Et j'avais peur de me prendre des remarques. J'avais pas trop envie de m'exposer. J'avais une certaine pudeur. Mais je regrette pas de l'avoir fait parce qu'à partir du moment où je l'ai fait, ça a personnalisé le blog. Les lectrices ont pu mettre un visage et un nom derrière ce que je pouvais dessiner. Et après, le fait de dessiner sur la maternité, c'était pas juste des dessins sur une femme lambda enceinte, c'était mon expérience. Et forcément, quand on raconte des choses qui arrivent à soi-même, on est on tape plus dans le mille, en fait. Ça parle vraiment, on est plus honnête. Et de raconter des petites anecdotes que je pouvais vivre au quotidien, rappeler des souvenirs à celles qui me suivaient. Et puis après, c'est un peu l'effet boule de neige, parce que c'est des dessins qui se partagent, où une lectrice va dire « je me reconnais tout », ou « je reconnais une copine », elle va la taguer, et ainsi de suite. Et sur les réseaux sociaux, ça va hyper vite, en fait.
Ça peut être quoi comme sujet, par exemple ? Les exemples de dessins que tu as fait
Au début, c'est très pipi caca, hein, parce qu'avec les enfants... Mais je ne sais pas, je me rappelle d'un dessin que j'avais fait qui tombait vraiment bien. Alors là, c'était un petit peu plus tard, c'était quand j'étais à Lyon. J'étais enceinte de ma cadette. J'ai accouché au mois de juillet en pleine canicule. Et la canicule pour une femme enceinte, c'est juste horrible. Et j'avais dû faire un dessin là-dessus. Et comme je pense qu'on était toutes les femmes enceintes à ce moment-là n'en pouvaient plus, étaient au bout de leur vie, ça s'est partagé dans tous les sens. Et je me rappelle, j'avais eu, entre 20 et 30 000 visites en une journée sur le blog. Quoi. C'était énorme. Je ne sais pas, ça peut être des dessins tout bêtes. Il y a celui où je m'étais dessinée en train d'aller voir si mon fils respirait toujours la nuit. C'est un truc qu'on fait tous à un moment donné. En fait, je pense que c'est vraiment les choses dont on n'a pas conscience avant d'être parent. Une fois qu'on l'est, on se dit « mais oui, c'est tellement évident ». Ou moi, je me rappelle quand j'étais dans des cafés ou au restaurant et je voyais des parents prendre leurs enfants et leur sortir les fesses. Je me disais « mais tu peux pas sentir les fesses de ton gosse au restaurant, quoi. C'est juste pas classe ». Et qu'en fait, je le fais tout le temps pour effectivement vérifier que l'odeur suspecte vient bien d'accoucher de mon fils ou de ma fille. Et quand j'ai fait ce dessin-là, il a été partagé des milliers de fois parce que c'est un truc qui parle. C'est très bête, mais ça parle à tous les parents.
Et tu lèves aussi, à ta façon, beaucoup de tabous aussi autour de la maternité.
C'est ma façon de voir les choses, en fait. Déjà, je suis quelqu'un qui Je suis pas calme. Je suis pas la maman zen tout le temps. Mmh. J'essaye, hein, mais je suis plutôt celle qui va péter un câble. donc voilà, je vais m'énerver. Ça m'arrive même de pleurer, hein, j'avoue. Mais avec le recul, je trouve ça toujours très drôle, en fait. Parce que c'est des situations où on perd tellement le contrôle que j'ai vraiment le positionnement de mieux vaut en rire. Et même quand je repense au premier mois avec mon fils, donc mon premier enfant, qui franchement n'ont pas été faciles parce que j'étais un peu déprimée dans le sens où tout était nouveau, j'étais fatiguée, j'avais l'impression que j'étais pas normale parce que quand on me croisait, on me disait alors t'es super heureuse, genre ma vie était accomplie parce que j'étais maman. Et je me disais, mais en fait, j'ai envie de retourner travailler, j'ai envie de dormir et j'ai envie que ma vie, elle reprenne comme avant. Et bon, ça ne sera jamais le cas. Du coup, je me sentais tellement en décalage que je me disais, mais je ne comprends pas, je ne suis pas heureuse comme on attend que je le sois. Et du coup, je ne l'ai pas dessiné tout de suite, ça, parce que je culpabilisais. Il m'a fallu un petit peu de temps et surtout, il a fallu que je sois rassurée par rapport à mon rôle de maman et mon amour pour mon fils. Non pas que je ne l'aimais pas quand il est né, mais j'avais l'impression que c'était un étranger. En plus, mon mari étant d'origine réunionnaise, mon fils était, je l'appelais mon petit Inuit, il avait la peau ultra mate, les cheveux très noirs, les yeux très noirs. Donc quand je le regardais, je me disais, mais c'est moi qui ai fait ça. Et j'avais du mal à réaliser que c'était mon fils. Et en fait, ça c'est un truc que j'ai dessiné, je ne sais plus, c'est dans le tome 2 de ma BD que j'en parle, où je dis que vraiment au début j'avais un amour un peu animal par rapport à mes enfants, où on a envie de les protéger, on s'en occupe et tout, et après en fait on découvre leur personnalité, et l'amour grandit je trouve avec les enfants, et voilà, quand j'ai été un peu rassurée par rapport à ça, je me suis dit mais en fait si, c'est génial d'être maman, il n'y a pas de problème, je suis normale, j'avais juste besoin d'un petit peu de temps et de me faire à cette nouvelle vie. Là, j'ai pu en parler. Et je l'ai fait pour essayer de rassurer un peu les mamans qui se posent des questions, parce qu'on est toutes différentes. Moi, donc, j'ai eu mon fils avec, en même temps que d'autres amis. Y a celles qui étaient super épanouies, qui n'avaient jamais été aussi heureuses de leur vie, celles qui étaient justement hyper déprimée ou fatiguée ou angoissée ou voilà. Je me disais, parce qu'on est toutes différentes, c'est important de rappeler qu'il n'y a pas un schéma, que c'est pas, quand j'entends ça, que c'est génétique, ça me fait hurler parce que il y a des hommes qui sont bien plus à l'aise avec un nouveau-né que des femmes, et on s'en fiche en fait. Chacun fait comme il peut. En l'occurrence, moi, mon chéri était, se posait pas toutes ces questions. Bon, après, il n'était pas à la maison toute la journée avec un nouveau-né. Oui. Il travaillait énormément, c'était le schéma classique de l'homme qui travaille, qui rentre hyper tard, la maman qui est fatiguée, qui reste à la maison, qui est toute seule, et quand il arrivait, je lui sautais dessus pour lui refourguer le bébé. Et voilà, il a fallu un petit peu qu'on trouve notre rythme. Mais du coup, c'était vraiment important pour moi de faire ces dessins, parce que j'en avais marre de cette espèce d'image imposée par la société de la maman aimante, oui d'accord, un peu fatiguée, hein, parce que c'est fatigant, un nouveau-né, c'est super fatigant, il y a des bébés qui dorment très mal, et que on peut être vraiment, on peut toujours penser au sketch de Florence Foresti quand elle dit oh, baby blues, c'est mignon un peu comme terme, on peut être vraiment malheureuse à ce moment-là, et moi je tenais à rassurer certaines mamans en disant c'est pas grave. Alors, je ne veux pas dénigrer ce qu'elles ressentent, mais juste leur dire ça passe, en fait. C'est que les choses évoluent, les choses après se mettent en place. Et moi, je le vois, quand j'ai eu mon fils, je me disais, mais ceux qui recommencent et qui ont un deuxième enfant, ils sont fous, quoi. Vraiment, je le pensais. Hein. Je me disais, mais je ne sais pas si j'aurai un deuxième enfant. Je ne sais pas si je suis prête à revivre ça, les nuits comme ça, le bébé qui pleure et on ne sait pas tout quoi faire et tout. Et voilà, j'ai eu une fille et puis une troisième. En fait, après, ça roule. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas des angoisses et tout ça, hein, mais les choses sont plus faciles. Et surtout, j'ai ce recul maintenant pour me dire, c'est pas grave, ça va passer. Ce n'est qu'un passage de la vie et les choses vont se mettre en place.
Et donc, tu disais, il y avait beaucoup plus de monde sur ton blog. Est-ce que tu t'attendais à toucher autant de mamans quand tu as commencé à dessiner sur la maternité?
Non, en plus, moi, j'ai commencé à dessiner. À l'époque, je suivais des dessinatrices comme Pénélope Bageux ou Margot Motin. Je me disais, oh, c'est tellement génial ce qu'elles font. Elles ont des milliers d'abonnés et tout. Et moi, je me sentais hyper nulle. Mes dessins, j'avais l'impression que c'était des dessins d'enfants. Genre, je sais même pas finalement ce qui me poussait à continuer. Peut-être une espèce de... J'en sais rien. Je me disais pas, de toute façon, ça... j'aime dessiner, on verra bien où ça m'emmène, mais je me suis jamais dit, un jour, je vais en faire quelque chose. Mm. Je savais pas, en fait. Et je dessinais pas en me disant, ah, je vais essayer de faire passer des messages, ou... En fait, je dessinais juste ce que je vivais. Et après, je me rendais compte que ça avait un écho chez d'autres mamans. Et j'ai eu des messages très touchants de maman qui m'ont dit « Mais tu te rends pas compte à quel point tes dessins font du bien, que moi, tes dessins m'ont accompagnée de moments où j'étais pas forcément très en forme et que ça me faisait un bien fou de voir que j'étais pas seule. » Et ça me touche énormément et en même temps, effectivement, je me rends pas compte quand je fais ces dessins-là, je raconte juste quelque chose et j'imagine pas l'impact que ça peut avoir. Mmh. C'est après, en échangeant avec l'électrice.
Et donc, tout cela t'amène à publier ton premier livre, Que du bonheur ou presque. Comment est né ce projet ?
En deux étapes. Alors, la première étape, c'est quand je me suis rendu compte que mes dessins fonctionnaient bien, que j'avais de plus en plus de lectrices. Je me suis dit, ça serait quand même sympa, peut-être de les réunir un peu pour qu'il y ait une sorte de trame. Parce que c'est vrai que je publiais sur les réseaux sociaux, sur mon blog, mais c'était des dessins un peu comme ça, sans forcément de... suite. Alors bien sûr, après, si c'était on démarrait avec la grossesse et on suivait un peu l'âge de mon fils, mais voilà, je me suis dit, et si je faisais une BD numérique, donc je regroupais des dessins dans un espèce de petit PDF qui serait à télécharger sur mon blog gratuitement pour tester un petit peu est-ce que ça a un intérêt, est-ce que les gens le lisent, est-ce qu'ils aiment. Donc j'ai fait ça et je crois que la BD en tout, elle a été téléchargée 60 000 fois. J'ai pas suivi tous les comptes récemment, mais ça a été assez impressionnant. Et devant le succès un peu de ce téléchargement, c'est un ami qui m'a dit « Et pourquoi tu contactes pas une maison d'édition ? Mon beau-frère, justement, il travaille chez Bambou Édition et ça pourrait l'intéresser. » Et à l'époque, j'avais pas vraiment confiance en moi. Je me suis dit « Genre, moi, je vais publier une BD avec mes petits dessins. » Enfin, voilà, il y a tellement d'autres dessinateurs qui ont plus de talent que moi. Pourquoi est-ce qu'on me choisirait ? Et j'ai quand même envoyé un mail, parce qu'il faut quand même tenter le truc, hein, en envoyant ma BD numérique. Et je m'attendais vraiment à avoir un retour, genre, bon, elle est mignonne, mais voilà, quoi, on va travailler avec des vrais dessinateurs. Et en fait, pas du tout. La personne à qui j'ai envoyé ma BD a été hyper enthousiaste par le projet. À l'époque, en plus, Bambou Édition voulait développer la partie humour et grand public, parce que c'est vrai que le monde de la BD peut être un monde un peu cloisonné. Et que là, du coup, une femme qui n'est pas du tout du monde de la BD, qui ne dessine pas de la BD classique, et qui a voilà, son propre univers et son humour, ça pouvait les intéresser. Donc, on a discuté et tout. Ça a pris, je pense, peut-être 3-4 mois avant que j'aie une réponse. Et pendant ces 3-4 mois, je ne me suis pas emballée. Je préférais me dire non, je sais pas, on verra. Et voilà, j'ai continué avec mon blog et tout. Et puis, je me rappelle que je devais faire une interview pour parler de ma BD numérique sur le plateau de France 3 à Lyon. Et la veille, j'appelle ma maison d'édition en disant bon, bah, ça serait cool d'avoir une réponse parce que ça serait bien que je puisse l'annoncer sur le plateau. Et ils m'ont dit, bah, c'est bon, on te fait un contrat, tu signes chez nous. Donc là, c'était ouh, champagne et tout. Et j'ai pu l'annoncer du coup, en direct sur le plateau télé. C'était, je sais pas, c'était un peu fou, en fait, tout ça. Donc c'était vraiment très, très cool. Et voilà, et du coup, on a fait le tome 1 comme ça. Donc on a repris pas mal de dessins qui existaient déjà sur le blog. Mais comme je n'y connaissais rien techniquement à l'époque, je les avais fait en basse définition. Pour le web, il a fallu que je refasse tout en haute définition. Et surtout, je ne voulais pas que les lectrices qui achèteraient mon livre se disent « Oh, bah, en gros, c'est juste un résumé du blog et il n'y a rien de plus. » Donc, j'ai tenu à dessiner la moitié, en fait, de la BD, enfin, de faire des dessins inédits. Donc, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Je pense que j'ai dû travailler dessus à peu près 6-7 mois avant que le tome 1 ne sorte.
Donc à ce moment-là, tu avais déjà quitté ton travail pour te consacrer pleinement à ta passion ?
Oui, ça faisait, que je ne dise pas de bêtises, un an ou un an et demi à peu près qu'on s'était installé à Lyon. que moi, je voulais me donner ma chance avec le blog. Parce qu'en fait, quand je dessinais à côté de mon travail, ce que je faisais, c'est que je dessinais sur un coin de table le midi à la pause déjeuner. Et le soir, en fait, je prenais en photo ou je scannais et je faisais au propre le dessin le soir. Donc, ça me faisait des grosses journées. Et pour travailler le dessin, c'était pas idéal. Et je m'étais dit, pour vraiment progresser et raconter tout ce que j'ai à dire sur la maternité, il va falloir que j'ai du temps. Donc voilà, je m'étais vraiment lancée à fond sur le blog. Et je crois que ça faisait à peu près un an et demi que je ne faisais que ça. Et voilà, et après, quand on a accepté, quand on s'est mis d'accord pour faire la BD, c'est devenu mon travail à temps plein, parce que c'est un travail énorme. On ne se rend pas compte à quel point c'est ça prend du temps.
Tu me disais, quand vous avez décidé de déménager à Lyon, donc vous étiez à Paris, ton mari et toi, c'était pour agrandir la famille ?
Alors, la première chose, c'est qu'on n'est pas parisiens d'origine tous les deux. Et autant, moi, j'ai adoré la vie à Paris en tant que jeune cadre sans enfant. Mais dès qu'il a fallu avoir un logement un petit peu plus grand, il m'a se projeter aussi avec une famille. Alors, avec un enfant, ça allait encore, Mais la vie, en fait, elle nous fatiguait, quoi. Les transports, emmener notre fils chez la nounou, qui n'était pas forcément à côté, devoir courir le soir pour aller le récupérer. Finalement, on était à Paris, ouais, super, mais le week-end, on était tellement fatigués qu'on ne sortait pas des masses, qu'on avait des copains sur Paris, mais qu'avec les distances à parcourir, on ne se voyait pas tant que ça. Enfin, on se disait, mais ça n'a pas vraiment de sens. Et on recherchait une qualité de vie un peu plus tranquille. On a eu assez vite envie de partir de Paris. Pas pour se dire tout de suite on va faire un deuxième enfant, mais on se projetait quand même avec une famille un petit peu plus grande et surtout on voulait de l'espace, quoi. Moi je commençais un petit peu à étouffer dans notre petit appart. Et que n'ayant pas ce schéma-là dans mon enfance, parce que j'ai grandi à Rouen, en Normandie, j'avais du mal à me projeter à Paris toute ma vie.
Et alors, tu tombes enceinte pour la deuxième fois. Comment s'est passée cette deuxième grossesse ?
Super bien. Moi, j'ai de la chance. Quand je suis enceinte, tout roule. J'ai pas de problème particulier. Après, clairement, la deuxième grossesse est plus fatigante que la première. Et la troisième, on en reparlera plus tard. Mais c'est encore pire. La seule chose, c'est que, comme je disais un petit peu avant, j'ai arrêté la pilule et tout de suite je suis tombée enceinte et j'ai de nouveau fait une fausse couche. Donc là, je me suis dit, bon, ça commence à être un petit peu lourd là, de faire des fausses couches à chaque fois. Mais je m'en suis quand même remise un petit peu plus vite, dans le sens où cette fois je savais que c'était normal. Certes, j'étais hyper déçue parce que j'avais très envie d'un deuxième enfant. Ça me fait rire parce que autant après le premier, les quelques mois après avoir accouché de mon premier fils, de mon premier enfant. Je me disais, jamais j'en aurai d'autres. Et puis, en fait, d'un seul coup, ça vient à soi. C'est comme une évidence que si, là, je veux un autre enfant. Donc, du coup, quand je veux quelque chose, moi, j'ai envie de l'avoir très vite. Donc, j'étais très déçue. Et je me rappelle que tout le monde me disait, il faut laisser ton corps se remettre, blablabla, blablabla. Et moi, j'ai laissé parler. Je me disais, dès que mon cycle de règles est revenu, on rattaque parce que j'ai vraiment envie d'avoir un enfant maintenant. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai sauté sur mon mari dès que ça a été possible. On en rigole encore de ça. Et autant j'ai fait plusieurs fausses couches, autant c'est vrai qu'entre nous, ça a toujours matché. Ça prenait très vite les grossesses. Donc, du coup, je suis retombée enceinte. Et cette fois, on ne s'est pas emballé tout de suite. On a attendu de passer la période un peu critique. Mais c'était bon. C'était une petite fille en plus. Donc, on était contents d'avoir les deux. Et super grossesse.
Est-ce que tu vis un peu mieux le retour à la maison cette fois-ci avec...
Oui, alors ça c'est... Justement, j'en ai fait toute une partie dans le tome 2. Parce que j'ai vécu deux retours à la maison très différents entre mon premier enfant et le deuxième. Le premier, j'étais vraiment dans le schéma classique d'avoir un conjoint qui travaillait énormément. Qui a certes pris son congé de paternité, là, les 11 jours, juste après la naissance. Mais on lui a quand même fait comprendre qu'il fallait s'y remettre après au boulot. Et puis, il était papa, super, bravo, mais c'est la maman qui gère, quoi, clairement. Donc, je passais les journées toute seule. Lui travaillait énormément. En plus, j'avais eu mon fils fin septembre, donc j'ai passé mon congé maternité en automne-hiver, donc pas forcément la meilleure période. Et du coup, j'étais super isolée. Moi, j'avais qu'une envie, c'est qu'on soit réunis tous les trois. Et bah, c'était le cas le week-end et pendant les vacances. Du coup, je mettais un petit peu la pression à mon conjoint pour qu'il soit là, alors que lui, il travaillait énormément. Et il avait l'impression d'essayer de faire tout ce qu'il pouvait, mais il se sentait vraiment pris en étau entre l'entreprise et sa famille. Donc, c'était pas une super période. Voilà, moi, j'étais stressée. En fait, j'étais bien que quand il était là, parce que je retrouvais mon équilibre comme ça. Et parfois, je culpabilisais en me disant « Mais ça va, t'es une grande, t'as plein de mamans qui sont toutes seules, tu devrais te débrouiller toute seule, quoi. Pourquoi ?» Et avec le recul, je me dis « Mais non, mais c'est normal. Enfin, un enfant, on le fait à deux. C'est normal qu'on ait envie d'être à deux. Et je vois pas pourquoi je devrais tout assumer toute seule. » Enfin, c'est des idées qu'on nous met en tête. Et ça me fait hurler aujourd'hui quand j'entends ça. Et en plus, même les femmes entre elles s'imposent ce truc. Il y a nos mères avant nous, nos grands-mères. Et on se dit toujours, elle a réussi à le faire. Donc, super. Donc, parce qu'elle était toute seule à s'occuper de ses enfants, on doit faire pareil. Je trouve ça en fait vraiment stupide. Bref, je m'égare. Et du coup, quand ma fille est née, on avait tous les deux quitté notre job avec mon mari. Nous étions donc plus disponibles. Elle est née au mois de juillet. Et même s'il faisait très chaud, c'était quand même beaucoup plus agréable. Et en fait, on a vécu pendant à peu près un mois et demi, deux mois, tous ensemble, avec mon mari, mon fils et ma fille. Et du coup, c'était super zen. Et là, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, la clé. C'est juste d'être ensemble. C'est que, quand à un moment donné, je suis trop fatiguée parce que j'ai allaité la nuit et que j'ai besoin de me reposer, mon homme est là, il peut prendre le relais. Et moi, je peux, je peux lâcher prise dans ces cas-là que quand il s'en occupe. C'est-à-dire que je... J'ai jamais réussi à faire des siestes en même temps que mon bébé, comme on dit toujours. Ah, mais dors quand ton bébé dort. Ouais, super. On est sur le qui-vive parce qu'on se dit qu'au moment où on va commencer un peu à fermer un œil, il va se réveiller. Donc, du coup, j'étais beaucoup plus zen et ça s'est super bien passé. Bon, en plus, ma fille était un bébé parfait qui dormait partout. Elle dormait partout. Elle mangeait super bien. Mon fils n'était pas jaloux. Enfin, c'était des super moments en famille. Donc, j'en garde un très bon souvenir. Et d'ailleurs, je me rappelle à l'époque m'être dit « Ah, ça y est, c'est fini. J'avais envie d'avoir deux enfants, mon mari aussi. Bon, c'est une page qui se tourne, mais c'est quand même cool, là. » Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai laissé une petite porte ouverte pour
la troisième, la troisième grossesse, donc une grossesse surprise. Comment tu as découvert cette troisième grossesse et comment tu as réagi?
On en rigole toujours. En fait, on est parti en vacances, le truc classique, allez Maurice. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que ma belle maman est réunionnaise et je sais pas, il y a une idée comme ça qui tourne comme quoi quand on est à l'île de la Réunion, les femmes sont très fécondes. Bref, et donc nous étions en vacances et on a un peu baissé la garde. Je pensais qu'il y avait pas de risque entre guillemets. Et voilà, on rentre de vacances et le truc banal, j'ai pas mes règles, donc on fait des blagues. T'imagines, t'es enceinte et tout. On était tellement sûr que c'était pas le cas qu'on rigolait quoi avec mon mari. Et puis quand même là, j'ai vraiment du retard et je fais non mais. Puis je sais pas, des petits symptômes qui commencent à arriver. Il me dit non mais quand même, t'es pas enceinte, parce que lui voulait pas de troisième enfant. On avait pas mal de projets, financièrement c'était un petit peu chaud, c'était pas vraiment le bon moment quoi. Et je lui dis oh, non mais franchement je suis sûre, je le sens pas. Et puis bon, j'achète quand même un test de grossesse parce qu'à un moment donné il faut quand même être sûre. Et je fais le test et on était tous les deux du coup avec mon mari et je regarde le résultat et donc je bloque. Lui il me prend le test des mains, il regarde. Et il me dit oh, je vais aller me pendre, je crois. Il est parti dans une chambre. Et là, il revient. Et on se regarde et on éclate de rire. Et il me dit oh, putain. Et je sais pas, on rigolait en fait. C'était hyper nerveux. C'était à la fois, c'est cool parce que je trouve que le moment où on découvre qu'on est enceinte est un moment incroyable. Alors, sauf si c'est vraiment pas voulu et tout. Mais là, finalement, je pense que quelque part, j'ai laissé une porte ouverte. Enfin. Quand on veut vraiment pas avoir d'enfant, on poisonne tout et je l'ai pas fait. Et j'adore ce moment. C'est bête, hein, mais le test de grossesse, c'est un truc. Je suis presque nostalgique de ça. Et donc, Et donc, j'étais à la fois contente et en même temps complètement paniquée. Parce que oui, pour la petite histoire, ça faisait juste un an pile qu'on avait eu, du coup, ma cadette. Et que la veille... en fait, ma cadette est née le 12 juillet et moi, je suis née le 11 juillet. Donc, elle est née dans la nuit de mon anniversaire. Et j'avais fait une blague sur le blog en disant, bah, cette fois, je pourrais voir autre chose que le brumisateur à la maternité. Et donc, j'ai bien pris l'apéro pour mon anniversaire. En disant, yeah, cette fois, c'est bon, je peux boire et tout, c'est cool. Et deux jours après, je découvrais que j'étais enceinte. Donc, pardon, petit bébé qu'il y a eu. Et ouais, c'était un petit peu une douche froide parce qu'il y avait à la fois le côté émotion de, yes, je suis enceinte, c'est génial. Et en même temps, de repenser au rendez-vous chez le gynéco, penser à tout ce qu'il y a autour, enfin, le corps qui change, d'être de nouveau grosse, entre guillemets, d'avoir encore les fringues de grossesse, accoucher encore une fois. Oh, j'avais la flemme, parce qu'en plus, j'avais l'impression que j'en sortais. En fait, je venais de finir ma rééducation du périnée, quoi. C'était... Donc, j'ai eu peut-être 24 heures de grand flottement en me disant, non, mais... qu'est-ce qu'on fait et tout. Et en même temps, je savais très bien ce que j'allais faire, parce que j'ai toujours dit que si j'avais une grossesse accidentelle, après avoir fait des fausses couches et tout, je savais très bien que, voilà, on le garderait. Du coup, j'ai appelé ma sage-femme, celle qui m'avait fait ma rééducation du périnée. Et on était en plein mois de juillet, donc tout le personnel était en vacances, il fallait les échographies et tout, c'était compliqué. Et donc j'ai dit, je suis enceinte, je sais pas trop quoi dire, je sais même pas par où commencer, qu'est-ce qu'on fait. elle a été vraiment très sympa, elle m'a donc prescrit une échographie, mais il fallait que j'attende en fait un petit peu. Et puis finalement, c'est devenu la grosse blague. On l'a dit à tout le monde parce que je pense qu'il fallait qu'on fasse sortir le truc de « elle est encore enceinte ». Ça a fait beaucoup rire nos proches. Et je crois que ça nous a rassurés. Il y en a beaucoup qui nous ont regardé, qui ont dit « mais vous allez assurer, c'est bon, pas de problème, ça va... » Ça me fait de l'émotion à en parler. « Ça va le faire et ça va être top ». Et du coup, bon, on s'est dit bah, « allez, c'est reparti pour un tour ». Et voilà, donc à part, on va dire, ces 24 heures de panique, c'est bon, après, ça s'est imposé comme une évidence. Et OK, on aura 3 enfants, et puis c'est comme ça.
Et donc, ça a donné lieu à ton deuxième livre. Donc, tu as continué les dessins et sur la maternité. Ton deuxième tome, donc, qui s'appelle...
3 fois plus de bonheur et de fatigue. Et en fait... j'ai dessiné le tome 1 quand j'étais déjà enceinte de ma troisième. C'est-à-dire que je l'ai appris en cours de dessin. Et ce qui est rigolo, c'est que j'étais en train de dessiner la partie sur l'accouchement, avant de savoir que j'étais enceinte de ma troisième. Hein. Et je me disais, ah ben, c'est fini pour moi cette partie-là. Bon ben voilà, je le revivrai plus. Et j'avais à la fois une petite nostalgie, en même temps, je faisais des dessins sur les couches qu'on a après l'accouchement. Je me disais, ça va pas me manquer ça. Et donc, 2 jours après, je découvris que j'étais enceinte de nouveau. Je me suis dit, mais le destin, quand même, se joue de moi. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait un petit décalage entre ce que je dessinais sur la première grossesse, la découverte du premier enfant et tout, et ce que je vivais en même temps, qui était bah, le troisième enfant et découverte plus tant que ça, quoi. Bon, par contre, ce qui était rigolo, c'est que le tome 1, au départ, était prévu plus vers la fête des mères, donc plutôt prévu en mai. Et j'ai appelé mon éditeur pour dire « Bon, bah, bonne nouvelle, je suis enceinte, donc je ne vais pas manquer d'inspiration. En revanche, il faudrait qu'on avance un peu la date de sortie, parce que pour faire la promo du livre, bah, il faut que... Enfin, faut pas que j'aie accouché, parce qu'une fois que j'accouche, moi, je suis avec mes bébés et je fais plus rien d'autre. » Donc voilà, on a avancé la sortie du livre, donc il a fallu que je travaille un petit peu plus vite. Mais en même temps, c'était rigolo, parce que ça faisait vraiment le bébé marketing, parce qu'assurer la promotion d'un livre sur la grossesse en étant enceinte, c'est quand même assez gros, quoi. donc voilà. Et donc, du coup, le tome 2, en fait, j'ai accouché de ma troisième, je crois que c'était 2 ou 3 semaines après la sortie du tome 1, et peut-être 2 mois après... le temps de voir un peu l'évolution des ventes, mon éditeur m'a rappelé en disant bah, tu veux faire le tome 2, je suis tu me laisses un petit peu mon maître. Et je crois que à partir de d'août, hop, je m'y remettais, je faisais le tome 2. Donc ça s'est vraiment enchaîné en fait.
Donc là, le thème sur la famille nombreuse, voilà. Donc avec tous les aléas de gérer Trois enfants.
Oui, trois enfants, et puis rapprochés, en fait, c'est ça, le truc, c'est que souvent, on me dit, ah, trois enfants, je dis, ça dépend aussi quand on les fait et tout. Bon, bah, mes deux filles ont 20 mois d'écart. C'était, la première année, c'était vraiment du sport. C'est violent, en fait. On s'est pris un tsunami dans la face, hein, clairement. Je dirais pas que c'était facile.
Donc, la maternité a changé ta carrière professionnelle une première fois. Et aujourd'hui, nouveau revirement, puisque avec ton mari, vous avez ouvert un restaurant à Lyon.
Oui.
Comment est venue cette idée?
Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que le fait d'être maman et en plus d'avoir trois enfants a beaucoup influencé nos choix de vie. Parce que notre conception de la famille à moi et mon conjoint, c'est vraiment d'être au maximum avec ses enfants, d'avoir du temps pour pouvoir s'en occuper, jouer avec eux, etc. Et du coup, il fallait qu'on choisisse aussi des carrières qui puissent nous permettre de faire ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on est venu à Lyon, qu'on s'est mis à notre compte. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, mais nos horaires sont flexibles, en fait. Ce qui nous permet de pouvoir nous occuper de nos enfants quand ils sont malades, d'aller les chercher à l'école pas trop tard. Enfin, c'est beaucoup plus flexible, que d'être salarié. Et après, le restaurant, c'est venu de plein de choses. On s'est rendu compte, là, avec des amis qui ont un peu le même âge que nous, quand on arrive vers 40 ans, on essaie aussi de trouver des professions qui ont un peu de sens par rapport à nos valeurs. Et autant on pouvait avoir un modèle de carrière à 20-30 ans qui était d'être dans une grosse boîte, gros poste, voyager dans le monde entier, etc. On en est beaucoup revenu de ça. En plus, on a connu justement les grosses entreprises, les gros postes, etc. Et c'est pas ça qui nous rendait heureux, en fait. Et du coup, le restaurant est venu au fur et à mesure parce qu'on a d'abord choisi de devenir végane. Donc, d'arrêter toute consommation de produits venant de l'exploitation animale. Et un soir, on était crevés parce qu'on venait de coucher nos trois enfants, qu'on avait tellement la flemme de se faire à manger. On voulait se faire livrer à manger, en fait. Et du coup, on regarde un peu sur Internet et on se rend compte qu'il n'y a rien qui existe, si ce n'est une salade verte. Mais on ne mange pas que de la salade et des graines, contrairement à ce que les gens croient. Et du coup, on s'est dit, mais il faut qu'on crée quelque chose parce qu'il n'y a rien qui existe aujourd'hui en livraison vegan. Et moi, j'étais quand même pas mal occupée avec les illustrations. Donc, c'est mon mari qui a cogité le projet. Et pour le coup, lui, quand il a quelque chose en tête, il ne lâche rien et ça va très vite. Peut-être un mois après avoir eu cette première réflexion, il cherchait déjà un local pour ouvrir un restaurant. Non, pardon, il est allé sur un salon vegan à Londres. Et quand il a vu tout ce qui se faisait là-bas, il s'est dit, mais il y a des choses à faire en France, même si c'est encore très petit, il y a des choses à développer. Et du coup, c'est vraiment lui qui a travaillé sur le projet pour trouver le concept de faire du coup de la cuisine dans des bocaux pour limiter en fait les déchets, pour que ce soit déjà prêt à manger, donc on puisse manger soit au restaurant, soit à emporter, soit en livraison, qui a trouvé le chef. Et moi, je l'ai accompagné, mais comme à l'époque, je travaillais sur mon tome 2, je ne faisais que l'accompagner, quoi. Et en fait, le tome 2 est sorti en mai, et en juin, on ouvrait le restaurant. Donc là, par contre, j'étais à 100% sur le restaurant. Ça a été un peu fatigant comme période. Et en même temps, c'est hyper stimulant, parce qu'avec du recul, oui, c'était hyper dur, parce que il y avait tellement de travaux à faire dans le restaurant, que mon mari, il rentrait à minuit, pendant que moi, je gérais les trois enfants après, du coup, ma journée de travail. J'étais épuisée, mais ça valait tellement le coup parce qu'on avait l'impression de faire les choses pour un vrai projet, quoi, quelque chose qui nous tenait à cœur. Et aujourd'hui, on est hyper contents parce qu'en fait, on bosse en couple. Donc souvent les gens me disent mais du coup ça va alors je leur dis franchement déjà d'avoir trois enfants ça teste bien un couple hein. Donc si le couple survit à trois enfants il peut survivre à n'importe quoi mais en fait ce que je trouve génial là-dedans c'est qu'on a on a les mêmes objectifs de vie en fait, c'est-à-dire qu'on a on est vraiment en osmose entre la vie professionnelle et la vie familiale. Il n'y en a pas un qui passe ses journées à travailler ou à voyager pendant que l'autre gère la famille, et inversement, en fait, on tourne. Donc, on alterne au restaurant, on alterne avec la famille. Là, par exemple, du coup, c'est mon mari qui va aller récupérer les trois enfants pour que je puisse avoir le temps de faire ce podcast. Et peut-être que demain, c'est moi qui vais aller les chercher pendant que lui fera la fermeture du restaurant. Donc du coup, c'est beaucoup plus équilibré de faire comme ça. Chacun a son rôle et on arrive à trouver un équilibre. Voilà.
Et tu poursuis toujours les illustrations
Oui, alors j'ai pas le temps de dessiner pour un troisième tome, parce que souvent on me dit alors un troisième tome, justement sur l'ouverture du restaurant et tout. Alors c'est un projet que j'ai dans un coin de ma tête, mais je peux pas tout faire là. Du coup, c'est vraiment le restaurant qui me prend la majorité de mon temps. En plus, on a des projets de développement, mais voilà, on verra ça dans un second temps. Et en parallèle, je fais des commandes de dessins. C'est-à-dire que je travaille pour des personnes qui ont besoin de... Enfin, des entreprises qui ont besoin d'illustrations. Donc, c'est souvent sur la maternité. Hein, je suis quand même connue pour ça. Voilà, donc ça me permet de faire les deux, mais je n'ai pas encore réussi à trouver du temps pour voilà, dessiner un potentiel tome 3. Ça sera, je ne sais pas quand. J'aimerais vraiment le faire, mais on ne peut pas tout faire.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Beaucoup de choses. Ouais, tellement de choses. Après, il y a la maternité, mais il y a aussi la vie en couple. Je trouve qu'on grandit tellement. Je pense que je me remets aussi beaucoup en question avec les enfants, parce qu'en fait, c'est comme des petits miroirs, je trouve, les enfants. Ils nous renvoient beaucoup de choses par rapport à notre propre expérience, à nos parents, à notre enfance. Donc, il y a aussi une espèce de gros travail de psychologique à faire. Ce sont des questions qu'on ne se posait pas avant. Sur l'éducation aussi, moi, mes parents m'ont élevée d'une certaine façon et je m'étais toujours dit que je ferais la même chose. Et non pas que je critique leur façon de faire, c'était une génération à l'époque, mais je me rends compte qu'il y a des choses que je fais différemment aujourd'hui parce qu'on a évolué, et du coup ça me fait beaucoup m'interroger sur la société, sur plein de choses. Et après, bon, à titre personnel, d'un seul coup on fait plus les choix pour soi, mais pour une entité, pour sa famille. Ça ajoute tellement de richesse, je trouve, en fait, à la vie. Alors c'est moi, je suis toujours en train de blaguer en disant que c'est fatigant, etc. Mais en même temps, je me nourris de cette vie de famille, de ce que les enfants me renvoient comme image, de leur petite personnalité. Moi, ils m'éclatent, quoi. Ils me sortent des trucs parfois. Ils arrivent à voir ça sur nous, c'est à mourir de rire. Donc, je trouve qu'on devient une autre personne. Enfin, c'est bizarre. À la fois, j'ai la Céline, un peu jeune, qui se projetait pas du tout... comme une mère, mais vraiment pas. Et puis, à cette nouvelle personne qui cohabite maintenant, où je suis maman à part entière, avec trois enfants, je suis pratiquement tout le temps maman, sauf quand je suis ici et qu'ils ne sont pas avec moi, mais ça me prend... C'est ma vie tout le temps, en fait. Donc oui, ça change le quotidien, mais ça change aussi la façon de penser. Voilà.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Oui.
C'est quoi pour toi être une maman lyonnaise ?
En fait, on est arrivé à Lyon il y a 5 ans. Entre-temps, on a eu 2 petites filles. Et j'ai l'impression que c'est passé hyper vite. C'est rigolo parce que l'autre jour, on avait une discussion avec mon mari où on se demandait, mais aujourd'hui, si quelqu'un nous demande, tu viens d'où, t'es quoi ? Je ne saurais pas répondre parce que j'ai vécu la moitié de ma vie en Normandie. Et pourtant, je ne me sens plus du tout normande dans le sens où ça fait 19 ans que je suis partie. J'ai vécu dans plein d'autres villes, donc c'est plus chez moi là-bas. On a vécu peut-être 11 ans à Paris. Donc, je pense que j'ai quand même un petit ancrage parisien. Mais bon, on en est parti, donc on n'est plus vraiment parisien. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que je suis lyonnaise, parce que ça fait que 5 ans que j'y habite, que je connais même pas le nom des rues. Que quand on me parle parfois de stations de métro ou de petits bleds autour, je regarde les gens, je sais pas de quoi vous me parlez. Donc je ne sais pas. Je dirais qu'être maman lyonnaise, c'est certainement être un peu plus cool qu'une maman parisienne, parce que j'ai fait les deux. Et que je cours quand même beaucoup moins, qu'on est beaucoup plus nombreuses à venir chercher nos enfants à 4h30, 5h qu'à Paris. mais voilà, j'avoue que je n'ai pas le recul aujourd'hui pour dire ce que c'est qu'une maman lyonnaise. J'en sais rien.
Est-ce que tu as un endroit kid-friendly préféré ?
Mon restaurant ? Non, je sais pas. Kids Friendly, bah, alors, j'aimais bien. Il y avait un lieu que j'avais découvert, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait la Fabulerie, mais ça a fermé. Qu'est-ce que je fais avec mes enfants quand on sort? C'est une très bonne question. Sincèrement, à part les quais du Rhône où j'adore aller me balader parce qu'on peut prendre l'apéro pendant qu'ils font les foufous sur les quais, il n'y a rien qui me vient comme ça. Je réfléchis. Hein.
Non, bah les quais, c'est très
mais
bien.
Voilà, après, mais c'est justement aussi pour ça qu'au restaurant, on a tout un petit coin avec un canapé, des jeux pour enfants, de la place pour les poussettes, parce que je sais tellement ce que c'est que de sortir avec plusieurs enfants et de ne pas se sentir à l'aise parce qu'on n'arrive pas à les contenir, que tout le monde nous regarde un peu genre « bon, tu les tiens, tes mômes ?» Et que du coup, on ne passe pas un bon moment parce qu'on est là en train de faire la police. Voilà, j'essaie de recréer un petit peu ça dans le restaurant. Et aussi parce qu'on bah, les a de temps en temps avec nous quand ils sont malades ou pendant les vacances. Donc, autant les occuper.
Et quels sont tes projets rien qu'à toi et ceux prévus en famille?
Mes projets rien qu'à moi. Alors, si je sors de tout ce qui est professionnel, je fais un gros travail sur moi-même pour... comment dire, arrêter de me mettre la pression. parce que pendant un moment, je me mettais beaucoup de pression pour être une maman plus zen, faire du sport, manger plus équilibré, faire ci, faire ça. Et en fait, en voulant, entre guillemets, me faire du bien, je m'infligeais encore plus de contraintes. Et je me suis dit, mais arrête de faire ça et juste vis, en fait. Vis dans le moment présent. Et même si c'est pas parfait, bah, c'est pas grave. Et donc, j'essaye de faire ça. Alors, c'est pas toujours facile, hein, mais j'essaye de moins voilà, m'imposer de choses, d'être à la fois présente avec ma famille, mais si à un moment donné, j'ai pas envie d'aller faire de la pâte à modeler ou j'ai envie de me vautrer dans le canapé et de rien faire, bah, c'est pas grave. Je le fais pas tout le temps et je vais pas culpabiliser. Voilà, j'essaye de faire ça. Et après, avec ma famille... j'essaye vraiment d'accorder du temps à chaque enfant, d'être joyeuse. En fait, parfois, je me dis... non. C'est que l'autre jour, en regardant mon fils et ma fille qui va avoir 4 ans, je me suis dit, ils ont un âge où j'ai mes souvenirs d'enfance. Et du coup, je me suis dit, ça veut dire que là, ils vont se souvenir de ce qu'ils vivent maintenant. Et j'ai pas envie qu'ils me voient comme une maman... stressée ou qui crie tout le temps, j'ai envie qu'ils me voient comme une maman qui rigole, qui joue avec eux. Et du coup, j'essaye de l'appliquer le plus possible au quotidien. Ça veut pas dire que je crie pas. Hein. Parce que là, je dis ça maintenant, je ne les ai pas encore vus. Il suffirait de me voir dans 3-4 heures après l'épisode du bain et voilà, je serai en mode « Allez toutes vous coucher !» J'en peux plus. Mais... sans vouloir... j'ai pas de plan en me disant « Ah, faut que je fasse plus d'activités, il faut que je... » Je sais pas, faut les emmener au musée ou que je fasse plus de travaux manuels ou que je... Non, mais j'arrête avec tout ça, en fait. Je trouve qu'on est dans une génération où... alors, c'est bien parce qu'on est plus à l'écoute des enfants et en même temps, on se met une telle pression pour que faire des jeux ludo-éducatifs, j'en peux plus de ce terme. Parfois, on va juste jouer sans se prendre la tête, quoi, et c'est pas grave. Et voilà, j'essaye juste de rire avec eux, pas prévoir trop de trucs. Alors, des sorties quand même, parce que j'aime bien quand on sort un peu tous en famille. On recommence à le faire maintenant que ma dernière a 2 ans. Mais, de vivre le moment présent et d'essayer de prendre les choses avec philosophie quand ça part en sucette, et ça part régulièrement en sucette, surtout le week-end. Donc, voilà, mes projets, c'est d'être... Vraiment, c'est bête de dire ça, mais de vivre l'instant présent et pas d'être dans la projection de « Ah bah, quand on fera ça, ça sera cool ». Non, c'est juste, c'est maintenant qu'il faut que ce soit cool. Et bah, c'est pas facile à faire.
Merci beaucoup, Céline.
De rien.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Céline, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 25 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode!